Bonjour à tous, aujourd'hui enquête sur une communauté à caractère religieux où se mêlent soupçons de dérives sectaires et de travail non déclaré. L'Office culturel de Cluny, c'est son nom, est à l'origine de plusieurs associations de théâtre qui bénéficient de subventions publiques. Vous allez nous raconter ça, Cécile de Kervas-Doué, bonjour.
Bonjour.
Comme chaque mois, nous recevrons ensuite la médiatrice de Radio France, Emmanuelle Davier, bonjour.
Bonjour Jacques.
Et puis nous recevrons Xavier Harel, bonjour également.
Bonjour.
Alors vous avez réalisé un documentaire sur BNP Paribas qui sera diffusé jeudi prochain sur France 3. Et vous y révélez notamment qu'en 2011, dans le plus grand secret, le géant français de la banque a failli mettre la clé sous la porte.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Le problème, c'est qu'à la tête, il y a un fondateur qui a été reconnu comme ayant abusé des adultes. Et que dans cette communauté, ils ont été au courant de ces abus. Et il y a des gens qui y sont toujours et qui ont couvert.
Voilà, celui que vous venez d'entendre, c'est un ancien membre de l'Office culturel de Cluny, une association dont de nombreux satellites organisent toujours des spectacles de théâtre pour enfants, notamment. Alors jusqu'ici, rien à dire, mais pour bien comprendre de quoi on va parler, Cécile de Kervas-Doué, faut peut-être d'abord planter le décor et expliquer comment s'est créée cette association.
Eh bien, elle a été fondée en 1964 par un comédien, Olivier Fenoy, pour abriter au départ les activités de sa troupe de théâtre. Il l'appelle Office culturel de Cluny parce qu'il aurait eu cette idée dans un café parisien, un soir, un café qui s'appelle le Petit Cluny. Maintenant, cette référence religieuse n'est pas anodine non plus, parce que dès le départ, Olivier Fenoy revendique sa filiation chrétienne et organise sa troupe en communauté. C'est ce qu'explique l'historien Olivier Landron. Il a fait sa thèse sur le sujet.
L'Office culturel de Cluny peut s'inscrire dans ce qu'on a appelé les communautés nouvelles qui se sont développées à partir des années 1960 et elles ont voulu retrouver un catholicisme tout à fait classique, voire traditionnel. C'est là que l'Église a pensé, ou en tout cas certains évêques ont pensé que l'Église catholique pouvait, entre guillemets, évangéliser le monde des artistes. Et c'est vu comme une sorte de renouveau.
Ouais, ce renouveau, comme le dit Olivier Landron, il passe par toute une série de structures satellites.
Oui, très vite, les membres de cette communauté créent d'autres projets et s'installent dans une dizaine de lieux en France, mais aussi au Québec et jusqu'au Chili. Autour des spectacles de la troupe de théâtre, ils créent des ateliers de scénographie, de photographie, des ciné-clubs ou des cours de théâtre pour enfants et pour adolescents. Et ce qui est frappant, c'est qu'à l'intérieur de chacune de ces structures, on partage tout, explique Claire Fabre, qui fait partie de cette communauté depuis 40 ans.
Ce sont les rémunérations des uns et des autres qui sont mises ensemble dans un compte joint, mais dont chacun est pleinement propriétaire, pour assumer les charges de la vie personnelle commune que nous avons. J'ai eu l'occasion de me retrouver destinataire après le décès de mes parents de quelques biens. J'en ai mis une part dans des SCI qui correspondent aux outils de travail dans lesquels je travaille. Tout simplement parce que ce sont des choses auxquelles je crois et dans lesquelles je suis investie.
Oui, dans lesquelles elle est investie. Cela dit, on n'investit pas que dans des biens matériels, dans cet office culturel. Cécile, on prie aussi.
Oui, et l'association attire ainsi beaucoup de jeunes chrétiens. La presse catholique parle d'ailleurs régulièrement des spectacles produits par l'office et par ses satellites. Car la religion, dans cette association, ça va avec la culture, nous dit Corinne, qui a passé 19 ans au sein de la communauté.
J'ai tout envoyé balader pour me consacrer au théâtre. Et puis petit à petit, le responsable m'a proposé, il m'a dit « Écoute, on est en train de faire tout un travail avec l'Église, de charte communautaire, regarde, on s'engage, alors il y a comme des vœux, mais c'est comme au monastère, c'est rien d'important, et en même temps c'est important parce que ça veut dire que tu es d'accord pour prier avec nous. »
Qu'est-ce que ça implique comme sacrifice tout ça?
Sacrifice, vœux de chasteté. Vœux de pauvreté et vœux d'obéissance.
Ouais, effectivement, des vœux dignes d'un monastère, hein, comme elle dit, sauf que là, bien, on est hors de l'Église et c'est là où les choses se compliquent, Cécile, parce que certains, du coup, se demandent si derrière cette vie communautaire, il n'y aurait pas une forme de dérive sectaire.
Oui, alors effectivement, l'Office culturel de Cluny figure bien sur la liste des rapports parlementaires des années 90 de lutte contre les dérives sectaires. D'ailleurs, ces soupçons de dérives sectaires ont accompagné l'Office dès 1982, lorsque le gouvernement lui retire l'agrément jeunesse et sport. L'organisation va le récupérer en 1982. 1990, puis elle le repère avant de le récupérer à nouveau, toujours après de très longues procédures de justice.
Donc on ne peut rien dire de définitif sur le côté sectaire ou pas. Bon, maintenant il y a plus grave, Cécile. Très récemment, l'association a été éclaboussée par des témoignages extrêmement troublants.
Oui, c'était en février dernier. Plusieurs anciens membres de l'organisation ont affirmé que dans les années 80 et 90, le fondateur de l'Office culturel de Cluny, Olivier Fenoy, aurait abusé sexuellement de jeunes adultes. 5 victimes ont dénoncé ces agissements, dont Martin, qui nous raconte ce qu'il a vécu.
Tous les abus sexuels, sans exception, étaient accompagnés de délires mystiques avec une petite phrase d'évangile qu'on va citer. « Jean, le disciple que Jésus aimait. Je t'embrasse sur la bouche parce que Jésus a fait pareil avec quelqu'un en lui communiquant la salive. » Et puis, il y a, dans mon cas précis, il y a aussi le fait de dire « Tu es beau, tu n'y peux rien, c'est Dieu qui te l'a donné, donc tu as un devoir. » Plus je suis sous son emprise, plus il s'autorise à profiter. S'il se trouve devant quelqu'un qui est là, vraiment engagé pour tout le temps, alors là, ça va jusqu'au bout.
Oui, jusqu'au bout, on imagine ce que ça veut dire. Et alors, Cécile, elle en est où cette affaire aujourd'hui ?
Il y a prescription, l'affaire est trop ancienne pour donner lieu à des poursuites, donc elle est définitivement éteinte. Et dans l'entourage d'Olivier Fenoy, Claire Fabre explique que de leur côté, le ménage a été fait.
Devant ces accusations, donc des témoignages de personnes qui disent avoir vécu des relations sexuelles, voilà, non consenties, dont je ne me permettrai pas de dire si elles sont, je n'ai aucun moyen de savoir ce qu'elles sont, moi. Nous, les responsables de ces différentes associations, issues de l'Office culturel de Cluny, avons demandé à Olivier de quitter toutes ses charges et lui-même aussi l'avait proposé.
Oui, donc pour elle, tout ça, ça serait réglé, ce serait du passé en quelque sorte. Bon, cela dit, les blessures, elles, sont encore très vives.
Oui, plusieurs anciens membres ont du mal à croire au départ réel d'Olivier Fenoy. Et il rappelle qu'il avait déjà été écarté dans les années 90 avant de revenir aux manettes. Mais il n'y a pas qu'envers lui que les anciens membres éprouvent du ressentiment. Certains, comme Evelyne Grasset, reprochent aussi à l'Église d'avoir fermé les yeux.
Ça me met très en colère. Le fait que les évêques soient restés silencieux, pour moi, les rend complices de ce qui s'est passé à l'intérieur de l'OCC. Par exemple, dans chaque maison, il y avait une chapelle, si vous voulez, avec l'Eucharistie, il y avait des messes dites par des prêtres. Donc, il y avait l'apparence absolue que l'Église soutenait ce qui se passait. Je peux, par exemple, vous dire que l'évêque de Troyes, que je ne nommerai pas, a entendu 2 victimes sexuelles d'Olivier Fenoy, 2 viols d'Olivier Fenoy, et qu'il a continué à soutenir Palis.
Ouais, Palis, qui, je précise, est un des lieux historiques de l'office. Bon, cela dit, c'est grave ce qu'elle dit Evelyne Grasset, de l'évêque de Troyes. Il aurait couvert des abus, dit-elle. Et l'évêque, lui, Cécile, qu'est-ce qu'il répond à ça ?
Bien, écoutez, j'ai fait part de ces accusations, justement, à Mgr Stinger, et voilà ce qu'il m'a répondu.
Écoutez, honnêtement, je ne me rappelle pas du tout. J'ai peut-être manqué de vigilance. Je le reconnais volontiers. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je n'ai jamais eu l'intention de couvrir qui que ce soit et quoi que ce soit. Moi, je n'ai aucune raison de couvrir Olivier Fenoy. Je l'ai rencontré 2-3 fois, mais pas au début de mon épiscopat. J'avais entendu dire des choses à son sujet, effectivement. Mais qu'est-ce que je devais faire, moi, dans ce cas-là ?
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Alors maintenant qu'on a vu que l'Office culturel de Cluny est très marqué par la religion et que son fondateur a fait l'objet d'accusations d'abus sexuels, examinons un autre volet de cette affaire. Cécile, des anciens membres de l'association affirment eux avoir travaillé sans jamais avoir été payés.
Mais oui. Et en 2010, 21 d'entre eux ont créé un collectif pour demander réparation. C'est Evelyne Grasset qui, à 65 ans, a décidé de lancer cette procédure, car elle s'est rendue compte qu'après avoir travaillé pendant des années pour l'Office culturel de Cluny, eh bien, elle n'avait le droit qu'à une retraite minimum.
Mon mari est un petit peu plus âgé que moi, on était voir la CRAM, et nous on pensait bêtement qu'on avait droit à un minimum vieillesse comme tout le monde. Et on a découvert ce que c'était que le minimum contributif. C'est-à-dire, en gros, on allait se retrouver avec 300 euros chacun de retraite. Et donc, on s'est dit, tous les deux, on a donné nos meilleures années de travail à l'OCC. On ne veut pas, en plus, que notre retraite la passe dans le dénuement et la pauvreté, toujours à cause de ces années que nous avons données, sans cotisation sociale, sans rien. C'était contre le droit du travail français, quoi.
Ouais, contre le droit du travail. Bon, cela dit, l'URSSAF a quand même fini par s'en apercevoir.
Oui, l'URSSAF de Cholet a effectivement poursuivi une des structures de l'organisation située dans sa juridiction. Et l'Office culturel de Cluny a finalement dû payer les cotisations qui étaient dues. Il y a également eu un contrôle de l'URSSAF à Grenoble, au Café des Arts, mais pas dans la dizaine d'autres lieux qui hébergent pourtant les structures de l'OCC en France.
Ouais, parce qu'il faut dire qu'au fil du temps, les montages de ces associations sont devenus assez complexes. Hein.
Oui, elles se sont transformées en de véritables millefeuilles juridiques. Mais en 2010, un des responsables financiers de l'organisation tout juste sorti a remis des documents à l'avocat du collectif des plaignants, Maître Duchanois, et ça lui a permis de démêler la pelote.
Avec ces documents-là, on arrive effectivement à reconstituer une organisation qui est vraiment celle d'une entreprise nationale, voire internationale, avec des comptes consolidés, avec chaque année des conseils d'administration dans lesquels on évalue qu'est-ce qu'on a fait cette année, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, quels moyens financiers on va mettre sur chaque organisation, qui va diriger quoi. Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement structuré. Ils ont profité de l'OCC pour vivre bien sans jamais débourser le moindre centime.
Oui, pour vivre bien, Cécile, on aurait apparemment aussi veillé à payer le moins d'impôts possible.
Oui, et ce grâce à une structure appelée Patrimoine et Développement. Elle avait pour but de gérer les biens immobiliers, tous ces châteaux acquis par les associations et rénovés par les bénévoles. Et selon François Destor, qui a dirigé les finances de l'Office culturel de Cluny pendant 10 ans, ça aurait aussi permis de payer moins de charges.
On a tout fait pour déshabiller l'OCC de tout ce qui pouvait être récupéré par une action style fisc, tout ce qu'on voulait, voilà, URSSAF et tout ça. Et on a créé Patrimoine Développement, qui rassemblait tous ces bâtiments, toutes ces parts de SCI, etc., dans une seule et même structure, et aussi les dons. Et moi, je disais aux membres de la communauté qui léguaient leur héritage, je ne veux pas que vous apportiez l'argent comme ça. Et je m'apercevais qu'après, la personne revenait me voir en me disant « J'ai vu Olivier, j'ai vu Pierre-Dominique, donc il vaut mieux que je donne. » Mais moi, quand je suis parti, il y avait peut-être 12 ou 14 millions d'euros en 2010.
Ah oui, 12 ou 14 millions d'euros. C'est effectivement une petite entreprise qui marche bien. Pourtant, les membres de cette communauté, eux, n'en ont pas vu la couleur ou pas trop de cet argent.
Effectivement, c'est ce qu'affirment beaucoup d'anciens qui dénoncent les conditions dans lesquelles ils vivaient. Ils ne pouvaient pas sortir non accompagnés, ni même voir un médecin de ville, alors que l'office possédait tous ces châteaux, raconte Jean-Luc Grasset, qui a passé plus de 20 ans dans la communauté.
On s'est bien rendu compte qu'il y avait une volonté de faire la mainmise sur des héritages, d'acquérir des biens et d'avoir une vitrine sociale avec des châteaux, des domaines, des grandes propriétés, sans respect des personnes. Ils préféraient investir dans la pierre plutôt que de payer des cotisations sociales pour les gens, quoi. Les soins basiques. Chez les médecins, ils n'étaient même pas pris en compte par la Sécu, rien du tout. Il y avait un assureur complaisant qui avait accepté de faire une couverture sociale, mais pour lequel il fallait payer le double pour le gourou.
Ouais, donc il y avait un gros décalage entre le patrimoine donc d'un côté et le niveau de vie des membres de l'office. Certains des membres d'ailleurs ont eu beaucoup de mal à le récupérer cet argent.
Oui, on le voit bien, en décembre dernier, la justice a donné raison aux 21 plaignants. Elle condamne l'office culturel de Cluny et sa structure financière, Patrimoine et Développement donc, à verser 1 million d'euros aux anciens membres. Le problème, c'est que depuis 2010, toute cette richesse a été disséminée. Depuis mars dernier, l'office est en liquidation judiciaire. Du coup, raconte Maître Loïc Duchanois, impossible de trouver l'argent.
Il n'y a plus rien du tout. Donc, soit ça a été vendu, soit ça a été cédé, légué, transmis à d'autres structures qu'on n'avait pas poursuivies parce qu'on ne pouvait pas poursuivre les 30, 40 ou 50 structures. Et ça a été redistribué autre part. Donc l'argent, finalement, est ressorti de petit à petit sur l'espace des 10 ans de procédure pour le diluer sur d'autres structures qui, elles, n'étaient pas poursuivies.
Ouais, ces autres structures, elles, Cécile, elles continuent de fonctionner. Et elles reçoivent d'ailleurs des subventions.
Oui, on touche là au cœur de l'organisation de l'Office culturel de Cluny. Elle se prévaut de multiples cautions, comme celle de Marie-Christine Barrault ou d'Edgar Morin, mais aussi de sponsors. Prenez par exemple le centre du domaine de Tournefou à Palisse. Si vous regardez un petit peu les partenaires financiers, eh bien vous voyez qu'aux côtés de Casino ou de la Société Générale, la Fondation de France. Vous avez aussi l'antenne régionale du ministère de la Culture, la communauté de communes, le département et la région Grand Est, qui en 2015 lui a fait un chèque de près de 60 000 euros.
Ouais, donc cette structure bénéficie de fonds publics.
Oui, mais pour Pascal Mangin, qui préside la commission culture de la région Grand Est, on regarde les dossiers, pas les pratiques religieuses.
En fait, la région subventionne un dossier qui répondait aux critères mis en place par la région. Et d'ailleurs, aux côtés de l'État, et lieu qui a toujours, me semble-t-il, l'agrément du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc il n'y avait pas de raison de s'interroger au-delà. Ça pose évidemment un certain nombre de questions. Peut-être faut-il que dans nos procédures d'instruction, on croise notamment les associations, les nouvelles associations qui rentrent avec un certain nombre de données que des organismes d'État peuvent nous fournir.
Ouais, des données que l'État pourrait fournir. Faute de données, en tout cas, le résultat, c'est que de nombreux partenaires de ces structures, bien, ils ne savent pas, tout simplement, à qui ils ont affaire.
Et l'exemple le plus frappant, c'est le théâtre de l'Épée de Bois, qui se trouve à la prestigieuse cartoucherie de Vincennes. Depuis 2015, on y accueille la troupe du théâtre de l'Arc-en-Ciel, qui est issue de l'Office culturel de Cluny, et qui vit toujours sous ce régime communautaire. Mais bien, quand j'ai rencontré la fondatrice de la cartoucherie, Ariane Mouchkine, elle est tombée de sa chaise en apprenant que ce théâtre avait une filiation avec l'Office.
Que certains catholiques noyotent le théâtre et le théâtre public, ça veut dire qu'ils sont très forts. Et je pense en plus que leur méthode est la même d'une certaine façon que les frères musulmans. C'est-à-dire remplir les vides, aller vers les plus pauvres, comme ils disent, etc., etc. Et pour l'instant, en ce moment, notre démocratie a laissé trop de territoires où l'éducation n'est pas assez présente, où la culture n'est pas assez présente, où la solidarité n'est pas assez présente, et où ces messieurs et ces dames, de quelque religion qu'ils soient, en font leur prébende. Je pense qu'il y a une remise en question de la laïcité qui est gravissime.
Je précise qu'après notre entretien, la cartoucherie a décidé d'annuler les représentations du Théâtre de l'Arc-en-Ciel qui devait débuter cette semaine. Et du côté du Théâtre de l'Arc-en-Ciel, on insiste pour dire que la maison mère, l'Office culturel de Cluny, a récemment été dissous et que la religion, eh bien, ça relève de la sphère privée.
Bien, merci Cécile de Kervas-Douai pour cette enquête et toutes ces explications. Alors je précise qu'on peut la réécouter, votre enquête, ou la lire sur franceinter.fr, et vous pouvez également poster vos commentaires sur la page Facebook de Secret d'Info ou sur Twitter, Investigation RF. Alors, toute autre chose maintenant, comme chaque mois, nous allons accueillir le médiateur de Radio France, et en l'occurrence, la médiatrice de Radio France. Bonjour Emmanuel Davier.
Bonjour Jacques.
Vous succédez à Bruno Denas. Alors, bienvenue d'abord dans Secret d'Info. Et voyons donc tout de suite avec vous ce que les auditeurs ont à nous demander ou à nous reprocher.
Alors, ce mois-ci, Pierre Rabhi, c'est le sujet qui fait beaucoup réagir les auditeurs. Le 15 septembre dernier, vous avez invité le journaliste Jean-Baptiste Mallet à venir s'exprimer dans Secret d'Info au sujet des contradictions de Pierre Rabhi. Interview très critiquée par de nombreux auditeurs qui n'ont pas compris pourquoi vous aviez choisi de traiter ce sujet, Jacques Monin.
C'est pourtant assez simple. Il se trouve que Jean-Baptiste Mallet a écrit un article, effectivement, qu'il a intitulé « Le système Pierre Rabhi dans le monde diplomatique » l'été dernier. Et cet article a été un des plus lus du monde diplomatique à cette période-là et a provoqué, on l'a déjà senti, un certain trouble. Donc, moi, je me suis dit, il se passe quelque chose. Là, il a touché quelque chose et il me semblait intéressant de comprendre tout simplement d'où venait ce trouble. Par ailleurs, Pierre Rabhi n'est pas un quidam. C'est quelqu'un qui a une vision de la société et du monde, qui propose, qui prétend proposer une alternative au mode productiviste dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Et il a une grosse surface médiatique. Je veux dire, il donne 30 à 35 conférences par an. Il a des entrées dans nombreux médias en France. Il a une très grosse audience. Et à ce titre-là, je vois pas pourquoi on aurait dû faire l'économie de l'examen critique du discours de Pierre Rabhi.
Alors, cet examen critique du discours de Pierre Rabhi n'a pas vraiment plu à François. Il nous écrit « Je croyais que le métier de journaliste consistait à confronter ses sources. Il y a là une investigation trop à charge. » Avez-vous vérifié les propos de Jean-Baptiste Mallet ?
Alors, il faut resituer les choses. Secret d'Info, pour ceux qui nous écoutent, ils le savent. Il y a deux parties. Il y a une partie qui est une partie enquête, qui, elle, est assurée par la cellule investigation de Radio France. Et donc, c'est nous qui faisons l'enquête. Il y a une deuxième partie qui est une partie invitée, où l'on invite quelqu'un dont on considère qu'il est légitime et que le sujet dont il traite est d'intérêt général. Et à ce moment-là, c'est lui qui va assumer ses propos. En l'occurrence, était-il légitime, Jean-Baptiste Mallet ? Pardon, mais il a écrit un livre sur Amazon. Amazon qui fait référence. C'est quand même un des premiers qui a infiltré Amazon, qui est quand même une des grosses entreprises multinationales qui interroge aussi le modèle de distribution, d'évolution de la distribution dans le monde. Il a également écrit un livre plus récemment sur la tomate industrielle, donc il s'intéresse aussi aux problématiques de l'agroalimentaire et de la qualité de l'alimentation. Un livre qui, en passant, a été sélectionné pour le prix Albert Londres. Donc, pardon, ce n'est pas n'importe qui. Et j'ai discuté avec lui, je peux vous garantir qu'il est allé sur place, il est allé aux Amanins dans la Drôme, il est allé au Hameau des Buis, donc c'est pas une vue de l'esprit tout ce qu'il raconte. Il est allé au monastère de Solan, il est allé chez Pierre Rabhi, il a rencontré Pierre Rabhi, il a 3 heures d'enregistrement avec Pierre Rabhi. Tout ça me semble quand même créditer la qualité de celui que nous avons invité. Je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas pu s'exprimer.
Alors, en l'espèce, l'angle choisi semble poser problème. Boris nous demande, depuis quand gagner de l'argent est un délit? Depuis quand ne pas reverser tous ses biens en est un aussi? Léo renchérit, il ne vole rien à personne. Et un autre auditeur constate, ce n'est pas croyable de vivre dans un pays où l'on cherche toujours à discréditer le succès.
Alors, je ne suis pas le porte-parole de Jean-Baptiste Mallet. Moi, ce que je peux, c'est vous expliquer pourquoi on l'a invité et pourquoi il nous semblait intéressant de l'entendre. Ce que je peux faire remarquer quand même, c'est que dans un rôle de modérateur, j'ai moi-même effectivement fait remarquer à Jean-Baptiste Mallet que gagner de l'argent n'était pas scandaleux en soi. Et ce qu'il a répondu quand même pour mémoire, c'est que le problème n'est pas que Pierre Rabhi gagne de l'argent ou gagne correctement sa vie. Le problème, c'est la contradiction éventuelle qu'on peut identifier entre le discours de sobriété, voire de pauvreté d'un côté, et la réalité de ses revenus. C'est ça qui l'interroge, c'est pas l'argent, c'est la cohérence en fait entre ce discours et la réalité.
Géraldine, une auditrice, estime que s'intéresser à Pierre Rabhi, c'est négliger d'autres sujets. Je la cite, « N'auriez-vous rien de mieux à faire? En qualité de journaliste, il y a des sujets prioritaires à traiter. Le train de vie de l'État, les lois mises en place sur les routes françaises, la répression ambiante, les retraités pensionnés, les problèmes climatiques et écologiques. » Stéphane, un auditeur, est sur la même ligne. Je vous lis un extrait de son mail. Pendant ce temps, le journalisme, qui est censé être le cinquième pouvoir, laisse les politiques bien tranquilles quand ces crapouilles donnent le droit à des multinationales de nous empoisonner, vote Monsanto, et s'il n'y avait que ça encore. Jacques Monin, que répondez-vous à Géraldine et à Stéphane?
Je vais inviter Géraldine et Stéphane à écouter Secret d'Info. Tout simplement, parce que si vous regardez un peu les sujets qu'on traite, on a récemment traité des questions de pollution et d'impact sur la santé publique dans la région de Fos-sur-Mer. On a fait des émissions sur les lobbies, justement, et comment les lobbies infiltrent le pouvoir, comment ces lobbies ont torpillé un certain nombre de mesures en faveur du bien-être animal qui faisait partie des propositions d'Emmanuel Macron. Je la renverrai aux Paradise Papers et à tout ce qu'on a fait sur l'évasion fiscale. Je la renverrai à tout ce qu'on a fait, ou je les renverrai à tout ce qu'on a fait sur l'affaire Fillon, sur les assistants parlementaires du Modem, sur les ristournes accordées au candidat Emmanuel Macron pendant la campagne électorale, à ce qu'on a fait sur la privatisation des autoroutes, sur le gaspillage. Donc, il suffit d'écouter ce qu'on fait pour comprendre que cette critique, pardon Géraldine et pardon Stéphane, mais je pense que cette critique n'a aucun sens.
Ce qui est tout à fait notable dans le flot des mails reçus, c'est le caractère injurieux des contenus, ce qui constitue d'ailleurs en soi une forme d'évaluation du degré de mécontentement des auditeurs. Mais une telle inflation d'insultes, c'est aussi un objet d'interrogation.
Oui, ça n'est pas révélateur que du mécontentement, parce que du mécontentement, on en génère forcément, on est sur des terrains polémiques, et quand on contrarie des intérêts, on suscite forcément des réactions. Là, c'est plus que du mécontentement. Effectivement, on a été abreuvé parfois de messages injurieux, insultants. Et là, j'avoue que, là aussi, on parlait de contradiction tout à l'heure, je trouve qu'il y a une contradiction. Si les personnes qui, effectivement, nous envoient ce type de messages se revendiquent d'une mouvance qui elle-même prône l'ouverture, le partage, la bienveillance, etc. Là, il y a une incohérence, une contradiction. Et là, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Alors après, on peut oser une hypothèse, mais je comprends que dans un monde anxiogène où effectivement la pollution, le réchauffement climatique, les atteintes à la biodiversité, les effets des perturbateurs endocriniens, l'épuisement des ressources fossiles, etc., devient un enjeu tellement majeur que on a peur pour ce que va devenir notre monde, et que dans ce contexte-là, Pierre Rabhi apparaisse comme une espèce de lueur d'espoir. Et quand on donne le sentiment de toucher à cette lueur d'espoir, effectivement, on provoque des réactions extrêmement violentes parce qu'on a l'impression d'affaiblir un combat qui est essentiel. Mais moi, je dirais que peut-être au contraire, parce que cet enjeu est fondamental, il est important aussi que l'on s'accorde le droit de s'interroger sur ceux qui pensent l'incarner.
Dernière question sur une toute autre enquête diffusée le 15 septembre dernier. Jeanne avec Macron, histoire d'un hold-up politique. Christophe, un auditeur, écrit « Reportage et investigation très intéressant. Je ne suis pas particulièrement macroniste, mais côté vocabulaire, je trouve l'usage de hold-up complètement déplacé. Un hold-up est un braquage. Qui ont donc menacé ces gens? Qu'ont-ils volé? On peut ne pas apprécier la méthode, mais par ce terme, c'est insinuer la délinquance. » Alors c'est un point de vue largement partagé par d'autres auditeurs. Jacques Monin, pourquoi avoir fait le choix d'un tel titre?
Bon, le plus simple, c'est peut-être de demander à Sylvain Tronchet, qui est avec nous et qui a fait, pour le coup, l'enquête, ce que vous, Sylvain, vous auriez à répondre à nos auditeurs.
Il y avait un évident second degré. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est mal partagé, le second degré. Peut-être qu'on aurait dû éviter de l'utiliser. Moi, je pensais qu'on pouvait le dire. C'est une expression qui est utilisé dans le milieu sportif, par exemple. On qualifie de hold-up une victoire qui est acquise dans des conditions extrêmement surprenantes, rocambolesques et inattendues. Et ça me semblait caractériser également le parcours de ces jeunes garçons. Ça faisait référence aussi à quelque chose qui est l'élection d'Emmanuel Macron, qui a été qualifié de hold-up parce que Emmanuel Macron lui-même dit qu'il a été élu par effraction. Et évidemment, Emmanuel Macron ne sous-entend pas que lui-même a volé quelque chose, mais il utilise ce terme d'effraction. Par conséquent, ce hold-up était une sorte de petit hold-up dans le grand hold-up, d'où l'utilisation de l'expression.
Bien, Sylvain, on va peut-être en rester là. Emmanuel Davier, pas d'autres questions ?
C'est tout pour aujourd'hui.
C'est tout pour aujourd'hui. On vous retrouve donc le mois prochain. Merci beaucoup, Emmanuel. Mais restez avec nous, puisque dans quelques instants, vous allez découvrir qu'en 2011, BNP Paribas a failli mettre la clé sous la porte, et ce, dans le plus grand secret.
I won't be beat like I am the mayor of some godforsaken town. Sure, they knighted me yesterday, but who needs armor when I've an exoskeleton? I slip and squirm through the cracks, creep around by all the loading zones in my dirty little town. Get my shopping done, laundry too, drop some dead weight, clean my hands of what I need to clean my hands of. And all for free, by the mayor of all from zone to loading zone of my town, yeah. Three grumpy girls and a dying daddy, but oh so gorgeous just the way they crave. How beautiful to take a bite out of the world. I wanna rip the world a new one. It just crawls out of my mouth anymore. You can hate on it, or you can hug it. You can get all mushy and lovey-dovey. It's all the same when I'm out there driving around, all from zone to loading zone of my beautiful town. I park for free. One-stop shop life for the quick fix before you get a ticket. That's the way I live my life.
Sympa, hein, mélodique, enlevé, doux aussi à la fois. C'était Loading Zones, le dernier titre de Kurt Vile, un des nombreux fils spirituels de Bob Dylan.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors nous recevons maintenant Xavier Harel, bonjour.
Bonjour.
Avec Thomas Lafarge, vous avez réalisé un documentaire sur la banque BNP Paribas qui sera diffusé jeudi prochain sur France 3. Alors 10 ans après la chute de Lehman Brothers, vous revisitez les zones d'ombre de cette banque, de ce géant. Et alors ce qui est frappant, enfin moi c'est la première chose qui m'a frappé dans votre film, c'est que on voit bien finalement que chaque fois qu'il y a une crise, eh ben la banque, loin de s'affaiblir, elle va se renforcer.
Oui, c'est l'un des paradoxes de cette grande crise financière, c'est que au moment de la crise financière, il y a une défiance absolument incroyable à l'égard des banques et une fois de plus, et comme à chaque fois, eh bien, c'est l'État, c'est le contribuable qui vient à la rescousse des banques, et donc effectivement qui a attribué une ligne de crédit absolument gigantesque aux banques françaises, et pour la toute première, BNP Paribas.
Alors c'est 20 milliards pour l'ensemble et 5 milliards pour la BNP, et c'est ce qui lui permet donc de grossir quelque part et de racheter donc Fortis, cette grande banque belge.
Tout à fait. Fortis qui connaît une crise de liquidité très importante pendant la crise, elle s'était très engagée sur les subprimes aussi, et surtout BNP en rachetant Fortis, eh bien a fait une très très bonne affaire, c'est-à-dire qu'elle l'a acheté au prix de la casse, mais elle a mis la main sur 100 milliards d'euros de dépôts belges. Il faut voir que Fortis c'était le joyau bancaire belge avec énormément de dépôts. Les Belges économisent beaucoup plus que les Français, beaucoup plus que les Allemands, et donc ça a permis de renforcer paradoxalement la solidité de BNP Paribas.
Oui, la consolider finalement. BNP a profité, entre guillemets, de la crise. Alors pour la crise grecque, c'est autre chose, mais là aussi, la BNP va bien s'en sortir parce que elle a contracté une grande dette vis-à-vis de la Grèce et peu à peu, elle va récupérer son argent grâce là aussi à l'injection d'argent public dans le pays.
Oui, alors c'est une histoire très paradoxale. Si vous êtes face à un ménage qui a un problème de surendettement, eh bien vous n'allez pas rajouter de l'endettement pour régler le problème du surendettement. Eh bien pourtant, c'est ce qu'on a fait avec la Grèce, c'est-à-dire qu'on a fait un plan de sauvetage de 110 milliards d'euros dont la principale ambition eh bien était de sauver les banques et de permettre aux banques d'être remboursées sans quoi elles auraient fait faillite.
Alors là, on vient d'évoquer deux crises qui sont connues. Il y en a une autre que vous évoquez qui est beaucoup moins connue, c'est celle de 2011. Et vous dites qu'en 2011, BNP Paribas était au bord de la faillite.
Effectivement, alors c'est une crise qui est passée relativement inaperçue pour le grand public. Hein. En 2011, il y a une crise qu'on a appelée la crise du dollar, c'est-à-dire que d'un seul coup, bien pour les banques européennes, il est devenu extrêmement difficile de se financer au dollar. Et d'un seul coup, eh bien, le robinet s'est fermé parce que la question de savoir si les banques européennes allaient faire faillite ou non s'est posée pour les banques américaines. Le robinet s'est fermé et BNP Paribas, qui travaille énormément sur les marchés financiers, mais aussi sur les financements des matières premières, le pétrole, le cuivre, eh bien, s'est retrouvé sans dollars. Et ce jour-là, ça a duré une année entière, la situation a été extrêmement critique pour BNP Paribas et on a eu, effectivement, on a des témoignages au sein de la banque nous expliquant que la banque a bien failli faire faillite.
Pourquoi on l'a pas su?
Parce qu'une banque, ça fonctionne sur le principe de la confiance. Et si la confiance est perdue,
il y a un effet clients, cascade.
Il y a un effet cascade. Peut... Les clients risquent de retirer leurs fonds, leurs dépôts, et là vous entraînez la faillite d'une banque. Il faut savoir qu'une banque c'est un château de cartes. Hein. C'est une banque c'est pour 100 milliards prêtés, et eh bien il n'y a que quelques milliards dans la banque. Hein. Et donc si la confiance est rompue, donc une banque est tout le temps en train quelque part de maquiller sa situation véritable. Et cette affaire de crise du dollar, eh bien elle était un peu connue d'un public spécialisé, mais là on a vraiment des témoignages de premier rang.
Alors autre chose, vous avez également rencontré un ex-banquier suisse qui vous raconte ce qu'étaient les pratiques de l'époque chez lui, c'est-à-dire que la loi interdit qu'on aille rabattre, chercher des clients à l'étranger pour leur vendre des produits financiers. Et lui, il le faisait, il allait en Italie chercher des clients qui venaient ensuite en Suisse. Et ce qu'on comprend dans votre film, c'est que à Paris, on le savait.
Nous avons trouvé effectivement un ancien gérant de fortune de la banque qui nous explique quelles étaient les méthodes de la banque dans les années 2000 et 2010 et qui explique comment ils allaient rabattre des clients, notamment en Italie, et comment le rachat de BNL, une banque italienne, par BNP Paribas est devenu un levier énorme pour la banque pour faire remonter des clients en Suisse.
Oui, ce que vous raconte votre témoin, c'est que on occupait du coup les bureaux de cette banque pour aller faire notre petit business en Italie.
Tout à fait. Et d'un seul coup, c'est plusieurs millions de clients italiens qui potentiellement pouvaient devenir des clients de BNP Paribas Suisse.
Voilà, et puis on ne peut pas ne pas parler non plus de cette amende de 6,6 milliards d'euros qui a été infligée à la BNP par la justice américaine, et vous avez enquêté sur les dessous de cette amende.
Oui, tout à fait. Alors, amende qui avait été imposée à la BNP Paribas pour avoir violé les embargos sur l'Iran, Cuba et surtout le Soudan. Et donc, on s'est vraiment intéressé à la question du Soudan parce que c'est finalement la partie la plus grave, puisque BNP Paribas a financé pendant des années eh bien un régime qualifié de génocidaire par les Nations Unies, et que c'était la seule banque qui acceptait de financer les exportations de pétrole du Soudan, qui a découvert beaucoup de pétrole au milieu des années 90, et sans lequel, eh bien, le régime d'Omar el-Béchir n'aurait pas pu s'équiper militairement. Il faut voir que le Soudan est un pays très pauvre, qui n'a pas accès aux marchés financiers étrangers, et la seule banque qui a accepté jusqu'au bout de financer les exportations de pétrole du Soudan, eh bien, c'est la BNP Paribas. Et pour ce faire, BNP Paribas, eh bien, a utilisé tous les moyens à sa disposition pour cacher ses opérations, créant des sociétés offshore, maquillant les bénéficiaires des opérations financières. Et ces opérations portent sur des dizaines de milliards de dollars.
Puis il y a une anecdote que vous racontez, c'est en 2006. Washington donc prévient les banques françaises en disant « Attention, si vous continuez, donc BNP, ça va mal se passer ». Et Michel Pébreau aurait refusé de rencontrer le représentant de Washington qui vient à Paris.
Tout à fait. Stuart Levy, donc, qui était sous-secrétaire au Trésor à l'époque, fait un peu la tournée européenne pour prévenir les banques que les États-Unis sont sérieux sur le respect de cet embargo financier. Et donc, décide de rencontrer BNP Paribas. Et effectivement, Michel Pébreau refuse de s'y rendre, considérant que ce n'est pas un sous-secrétaire d'État de lui expliquer ce qu'il doit faire pour sa banque.
Personne ne vous a répondu dans la haute hiérarchie de la banque, ni Michel Pébreau, ni son successeur.
Écoutez, alors nous avons sollicité à plusieurs reprises. Hein, j'ai moi-même rencontré la direction de la communication de la banque. Je leur ai expliqué quel était le projet du film. Malheureusement, aucun responsable ancien ou actuel n'a souhaité répondre à nos questions.
Bien, merci Xavier Harel. Je rappelle que votre documentaire « Dans les eaux troubles de la plus grande banque européenne », c'est son titre, sera donc diffusé jeudi prochain sur France 3. Faudra se coucher un peu tard quand même, puisque ce sera précisément à 23h35. C'est la fin de Secret d'Info. Merci à Martin Broyer pour sa précieuse collaboration. Merci à Christophe Imbert, notre réalisateur. Merci à Anne-Laure Cochet, à Lucas Vaillant qui était à la technique aujourd'hui. Et merci à Jean-Baptiste Audibert qui assurait notre programmation musicale. Dans quelques instants, Denis Chessoux, CO2 Mon Amour. Il va être question notamment du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et quant à moi, au nom de la cellule investigation de Radio France, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end.